Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale vient d'ordonner à l'Inspection Générale du Travail d'organiser une mission de contrôle de l'application de la législation du travail dans les secteurs du commerce et des grandes distributions et de prendre toutes les mesures pour amener les employeurs de ces secteurs à se conformer à la loi. C'était le lundi 23 mars que le ministre a pris cette décision. Pour rappel, plusieurs magasins appartenant à des commerçants indo-pakistanais sont restés fermés lundi 23 et mardi 24 mars au centre-ville de Kinshasa, ainsi que dans certains coins de la capitale, notamment à Kompage, dans la commune d'Engaliema. À l'origine, la contestation liée à la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG fixé à 21 500 francs congolais. Les travailleurs ont observé une grève générale et illimitée pour réclamer des meilleures conditions salariales et dénoncer les non-respects de leurs droits. De leur côté, les commerçants dénoncent des charges qu'ils jugent difficiles à concilier avec l'application du nouveau SMIG, tandis que les travailleurs insistent sur la nécessité d'en assurer l'effectivité. Quelle analyse faire de cette situation relative à la non-application du SMIG fixé à 21 500 francs congolais par jour? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission en ligne Jean Makayanga. Il est président de l'intersyndicale secteur du commerce. Il est également vice-président du syndicat Solidarité. Bonsoir monsieur Jean Makayanga. Voilà, on me dit que monsieur Jean Makayanga n'est pas encore là. John Mwenda, vous êtes chargé de la cellule SMIG à la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle. Bonsoir monsieur John Mwenda. John Mwenda, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment il n'est pas encore là lui non plus. En ligne également, Alidor Tubanda, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN en sigle. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Bonsoir professeur Alidor Tubanda.
Bonsoir monsieur Guillaume.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
À Kinshasa, plusieurs magasins tenus par des commerçants indo-pakistanais sont restés fermés lundi 23 et mardi 24 mars au centre-ville notamment. À l'origine de cette grève, la contestation autour de la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, une situation qui met en évidence des tensions sociales et économiques croissantes dans la capitale congolaise. On écoute ce reportage d'Enancy Atambo qui fait état de la situation qui a prévalu lundi et mardi.
Au centre-ville, les activités commerciales sont fortement perturbées. Les commerçants concernés estiment que les charges imposées sont difficiles à concilier avec les exigences liées au SMIC, tandis que les travailleurs réclament son application effective. Du côté des travailleurs, le message est clair. Ils exigent de meilleures conditions salariales et dénoncent le non-respect de leurs droits.
Nous sommes des travailleurs du secteur commerce. Nous grévons par rapport à notre droit. Le président de la République nous avait promis, en daté du mois de janvier, que le SMIC soit respecté dans notre secteur de 21 500 francs. Jusqu'au preuve du contraire, jusqu'à présent, on n'a rien touché. Tel que nous sommes ici, nous sommes dehors, il n'y a pas moyen d'avoir des transports. Pendant que l'on travaille, on peut avoir les transports, mais actuellement, ça affecte aussi nos vies, nos familles aussi.
Les syndicalistes soutiennent ces revendications et préviennent qu'ils pourraient durcir le mouvement si aucune solution concrète n'est trouvée rapidement.
Il y a eu un préavis de grève légale qui a été déposé au président de la République pour exiger le paiement des SMIC de 21 500. Et nous allons radicaliser les mouvements si aucune solution n'est trouvée.
En attendant une réaction des autorités, la situation reste étendue dans la capitale. La reprise des activités dépendra désormais des mesures qui seront prises dans les prochaines heures.
Merci à vous, Nancy Atambo. Professeur Alidor Tubanda, vous êtes là?
Oui, je suis là, monsieur Guillaume.
Voilà, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle analyse vous faites de cette situation relative à la non-application du SMIG fixé à 21 500 francs congolais par jour?
Bon, cela questionnait le rôle de l'État. C'est l'État qui a fixé et c'est l'État qui a le pouvoir de faire appliquer. Comment l'État pouvait arriver jusqu'à fixer le SMIC et ne pas avoir la capacité et les atouts nécessaires pour assurer son application? Il détient le monopole de la violence légitime. Il a le pouvoir d'arrêter et il a le pouvoir de faire poursuivre ceux qui ne respectent pas ces prises de position. Alors, l'acte qui est en train, les actions qui sont menées rentrent effectivement dans l'ordre normal des choses à travers le syndicat, le mouvement citoyen et le mouvement de travailleurs pour se remettre dans leurs droits et les faire respecter.
Voilà, et chaque partie, évidemment, on ne les a pas encore ici, mais quand vous échangez avec au téléphone, c'est ce que les partis vous disent. Hein. Chaque parti brandit ses arguments pour justifier, n'est-ce pas, son attitude. Et malheureusement, les positions semblent irréconciliables. Professeur, face à cela, l'État, parce que vous avez dit que c'est l'État qui doit intervenir, mais à quel niveau l'État devrait intervenir?
L'État a déjà décidé sur le salaire minimum garanti, qui est de 21 000, comme vous l'avez dit, presque 9 dollars pour quelque chose. Et il revient, l'État, quand il prend des mesures, et il a décidé, et ça doit s'appliquer. Parce que je supposais qu'en amont, il doit y avoir eu des échanges entre les différents intervenants, notamment les syndicats des travailleurs et la fédération des entrepreneurs, pour trouver un mode de survie. Je ne pense pas qu'on est arrivé à cette décision sans prendre en compte les différents paramètres et écouter les différents intervenants.
Voilà.
Dès lors que la décision est déjà prise, on doit l'appliquer, c'est ça, le sens même de l'État.
Voilà.
Il lui revient d'agir en fonction de ces mesures qu'il a prises.
Voilà, on va maintenant écouter les deux parties. On me signale que M. Jean Makayanga est là. Jean Makayanga, bonsoir. M. Jean Makayanga, est-ce que vous êtes là? Jean Makayanga, est-ce que vous êtes là? Est-ce que John Mwenda est là? Voilà, professeur, on revient vers vous, mais vous savez que les entreprises n'ont pas les mêmes... Monsieur Makayanga, est-ce que vous êtes là? Monsieur Jean Makayanga, est-ce que vous êtes là? Monsieur John Mwenda, vous êtes là?
Oui, je suis bien là, je vous capte parfaitement maintenant.
Ok, bonsoir, on n'a pas eu le temps de se saluer au début de l'émission.
Oui.
Voilà.
Bonsoir, Monsieur Guy.
Voilà, je rappelle que vous êtes chargé de la cellule SMIG à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Comment vous réagissez à cette initiative de l'intersyndicale qui a appelé, n'est-ce pas, à une grève générale et illimitée pour dénoncer la non-application du SMIG fixé à 21 500 francs congolais?
Voilà, je demande à nos amis de l'intersyndicale d'être responsables. Les entreprises ont déjà montré leur bonne volonté en appliquant le premier palier de 14 500 francs. Je rappelle qu'aujourd'hui, 14 500 francs, nous sommes à près de 7 dollars. C'est-à-dire que nous avons déjà fait un grand pas. Je rappelle que les entreprises ont accepté d'aller jusqu'au SMIC de 21 500 et d'y aller par palier. Nous avons proposé 16 500 comme premier palier.
Voilà, apparemment, lui aussi, on l'a perdu. Monsieur John Mwenda, vous êtes là? Voilà, il est parti. Jean Makayanga, est-ce que vous êtes là? Monsieur Jean Makayanga, est-ce que vous êtes là? Oui, mais on ne vous suit pas. Monsieur Jean Makayanga... Essayez de vous mettre à un endroit. Si vous êtes dans une maison, sortez de la maison, s'il vous plaît. Essayez de vous déplacer. Bougez un peu. Monsieur Jean Makayanga, est-ce que vous êtes là? Voilà, on revient au professeur Alidor Kibanda qui, lui, est présent. Professeur, est-ce que dans les... Vous avez dit, hein, certainement qu'en amont, il y a eu des concertations entre toutes les parties, c'est-à-dire les gouvernements, d'un côté, de l'autre côté, l'intersyndicale et puis la FEC. Mais est-ce qu'on ne devait pas tenir compte aussi des réalités dans ces pays, hein, où les entreprises n'ont pas les mêmes réalités? Chaque entreprise a ses spécificités. Est-ce qu'on ne devait pas commencer par tenir compte de ça avant de prendre la décision?
Les prises de position de l'État sont impersonnelles. Elles ne sont pas, quand l'État agit contre toutes ces dimensions, les décisions ne doivent pas être appliquées de manière sectorielle. L'État a pris en compte tous ces aspects. Il doit avoir pris en compte les attentes de la FEC et les attentes de l'intersyndicale des travailleurs. Et c'est au regard de tous ces paramètres-là qu'il est arrivé à décider de 21 000. L'État, on n'est pas. L'État a toutes les spécialités pour pouvoir arriver à une décision qui soit quand même réaliste. Et l'apparence que ça donne, c'est que même du côté de la FEC, en payant les travailleurs, ils ne prennent pas en compte aussi toutes les charges que les travailleurs ont pour pouvoir faire face à leur présence régulière au travail. Ils payent le transport. Il semble même que le transport n'est pas pris en charge par l'employeur. Ils se prennent en charge sur le plan médical. Et il y en a qui travaillent dans des conditions même non acceptables où toutes les conditions ne sont pas prises en compte quant à leurs prestations. Et tous ces aspects-là, je crois qu'il est temps qu'ils le revendiquent parce que le changement ne vient que lorsque on connaît ses droits et on sait le revendiquer. Au contraire, nous risquons de vivre dans une phase de seigneurisation qui ne veut pas dire son nom, où les travailleurs sont considérés comme du temps de la prolétarisation des travailleurs, et on les utilise comme de machines. On ne prend pas en compte que leurs charges, on ne prend pas en compte leurs attentes, on ne tient pas compte qu'ils sont des pères de famille, qu'ils ont les enfants scolarisés, qu'ils ont les enfants à prendre en charge, qu'ils ont des bouches à nourrir, qu'ils ont des maisons à payer. Parce que aujourd'hui, le minimum pour louer une maison considérable dans le quartier acceptable, c'est $200 pour une famille de deux enfants. Est-ce que les salaires qu'on leur donne peut permettre à ce qu'un travailleur se prenne en charge convenablement? Et on veut qu'on lutte contre la corruption. Comment on va lutter contre la corruption lorsque les salaires est très mal calculé? Donc je crois que l'État a pris en compte tous ces aspects-là pour permettre à ce que chacun soit convenablement pris en charge. Sinon, nous sommes en train de créer des seigneurs contre les prolétaires. Ce n'est pas évident.
Voilà. J'espère que John Mwenda est là. John Mwenda de la FEC, est-ce qu'il est là? John Mwenda? Voilà. Monsieur Jean Makayanga, vous êtes là?
Je suis en ligne, oui, je suis en ligne.
Ok, c'est bon. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'intersyndical secteur du commerce. Vous êtes également vice-président du syndicat Solidarité. D'abord, quelle est la situation du terrain ce mercredi? Est-ce que la grève se poursuit ou vous l'avez levée?
Oui, je crois que nous venons de prouver à la face du monde, nous venons de prouver à tous les employeurs que les employeurs sont à même de payer. À ce matin, à cause seulement de cette petite pression, plusieurs employeurs du secteur du commerce, notamment les groupes, les Indiens et quelques Pakistanais, ont commencé à payer 19 à 18 000 zaïs, de 19 à 21 000 francs aux Congolais, en signant le protocole d'accord avec nous. Donc c'était une mauvaise espoir tout simplement manifeste. Le seul secteur qui pose à ce jour le problème, c'est le secteur des Chinois, où les Chinois refusent catégoriquement d'appliquer les SMIC. C'est un refus catégorique d'un groupe, vous les connaissez, des Asiatiques, qui n'ont aucune culture syndicale, qui n'ont aucune culture de travail.
Donc vous nous annoncez là que il y a des employeurs qui commencent à payer.
Il y a la bonne foi de certains employeurs qui ont accepté de signer le protocole d'accord avec l'intersyndicale et quelques-uns ont accepté même de payer 21 000, 19 000 et 18 000 francs congolais au travail congolais ce matin.
Est-ce que c'est...
À cause de cela, puisque le ministre nous a appelé, j'ai continué, puisque le ministre nous a appelé, et pour ne pas créer l'entrave à l'inspection du travail conformément à la loi, nous avons pris soin d'élever la grève ce matin, ainsi que le travail a repris. Et demain, nous sommes invités à l'inspection du travail.
Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la majorité, M. Jean Makayanga, est-ce que c'est la majorité non, des employeurs qui ont commencé à payer?
Signe, ça montre que tout le monde ne payait pas. Hein? Mais ce matin, et avant-hier et ce matin, quelques Indiens, quelques travailleurs, quelques employeurs se sont manifestés devant l'intersyndicale pour demander « Laissez-nous ouvrir et payer 21 000 francs congolais. Laissez-nous ouvrir et payer 18 000 francs congolais. Laissez-nous ouvrir et payer même 19 000 francs congolais. » Les protocoles d'accord sont là, signés par certains membres de l'intersyndicale. C'est pour vous montrer qu'on avait tout simplement intoxiqué les travailleurs, on avait tout simplement forcé des choses, dire aux employeurs de ne pas payer, alors que 21 000 francs congolais qui ne représentent absolument rien, c'est un accord du panier de la ménagère, les employés du secteur du commerce et tous les employés du secteur, puisque nous avons été avec la FEC, est payable, est portable. Au portable aux employés du Congo, ça peut être payé. C'était justement une machination qu'on a montée.
Alors, et ceux qui jusque-là semblent résister, bon, ils affirment ne pas être en mesure de concilier les charges qu'ils jugent difficiles avec l'application du nouveau SMIG. Est-ce qu'ils n'ont pas raison?
Je vous donne un petit calcul simple. Je vous le donne une calcul simple. Dans une entreprise, les charges sont mieux connues. Il y a les travailleurs congolais et les travailleurs étrangers. Comment eux, ils importent leurs frais au nombre de 10 employeurs pour un travailleur congolais. Et leurs frais sont régulièrement payés à quel taux? Et ils n'ont pas l'argent seulement pour payer les pauvres congolais. C'est ça les inégalités sociales qui sont en train de se créer dans le secteur. Comme vient de dire le professeur, on est en train de sosifier les congolais, on les rend les animaux, on les rend des esclaves qui n'ont rien, alors que les expatriés sont en train de prendre l'argent, de transférer dans leur pays d'origine. Et c'est un transfert de capitaux qui est en train de se faire au détriment du pays. Allez voir dans ce secteur, vous allez voir le nombre d'expatriés qui est prévu par la loi d'un Congolais, 10 travailleurs congolais pour un expatrié. Aujourd'hui, c'est presque 50 travailleurs étrangers pour 2 Congolais.
Alors, vous allez nous aider, hein? Vous allez nous aider parce qu'on appelle ça, ce secteur-là, lorsqu'on parle de ce secteur, on parle des Indo-Pakistanais. Est-ce que ce n'est pas une appellation abusive? Est-ce qu'il n'y a que les Indo-Pakistanais qui sont là? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des Congolais qui sont là, n'est-ce pas?
Il y a des Congolais, mais vous savez que la situation actuelle dans ces pays, les Chinois et les Congolais vendent même en détail, allez dans les cadeaux, vous allez voir les Chinois en train de vendre en détail. L'économie du pays ne se trouve plus aux mains des étrangers, se trouve dans les mains des étrangers. Ça, ce n'est pas caché aux gens. C'est les expatriés qui contrôlent 95% du secteur du commerce. Ça, ce n'est pas à dire. Les Congolais ne représentent presque rien. Ils sont là, avec quelques magasins, quelques-uns, parce que je connais les entreprises des Congolais qui payent bien, qui payent un SMIC. Je suis permanent syndical, je peux vous démontrer qu'il y a des Congolais, quand ils ont les moyens, ils payent un SMIC. Moi, je suis dans une entreprise des Congolais qui font la fierté de notre pays en payant le SMIC, en mettant des conditions de travail convenables.
Et ce SMIC, le protocole d'accord que vous venez de signer avec certaines entreprises, il va commencer à être appliqué quand? À la fin de ce mois?
Ce mois-ci, au mois de mars, on paye 21 000. Quelques-uns vont payer 21 000, 19 000 et même 18 000.
Voilà,
quelques-uns vont payer parce que ce protocole d'accord, c'est pour le mois de mars, quelques entreprises. Et vous voyez qu'en une journée seulement, ils sont venus nous dire que nous sommes prêts à payer. Alors que pendant 3 mois, on a démontré à tout le monde qu'ils sont incapables de payer. Vous voyez, ça c'est l'imaginaire. On a créé seulement quelque chose de l'imaginaire et pour intoxiquer les gens, à nuire aux Congolais.
Voilà. Vous dénoncez le non-respect de vos droits. À part, n'est-ce pas, la non-application du SMIG, quels sont les autres droits qui ne sont pas respectés?
Les autres problèmes qui posent sur le problème du secteur de commerce, il y a la sous-traitance. La sous-traitance qui est là, dans laquelle les travailleurs qui sont dans les sous-traitances sont payés 2 fois moins que ceux qui les travailleurs ordinaires. Donc on arrive à une discrimination salariale dans une même entreprise. Et les travailleurs, les maisons de sous-traitance là, n'ont ni moyens, ne donnent ni soins médicaux, ne disposent même pas accès des locaux, c'est de l'esclavagisme professionnel qui réserve, c'est du job noir qu'il faut éradiquer.
Voilà, je donne la parole.
Le ministre a suspendu plus de 60 maisons. Nous lui demandons d'aller loin, de fermer ces maisons. C'est cela, pour éviter ce fléau social qui est en train de s'implanter dans ce pays.
Voilà, on va revenir vers vous. On accorde la parole à M. John Mwenda. John Mwenda, vous êtes là?
Oui, je suis là, Monsieur Guy Maté. Je suis à Bandundouville et la connexion est malheureusement très mauvaise.
Voilà.
Je voudrais dire que ce que le monsieur vient de raconter est pur mensonge. Je parle au nom de l'AFEC. Les entreprises de l'AFEC continuent à payer au taux de 14 500 avec la même tension salariale. Monsieur parle de protocoles d'accord qui auraient été signés. Monsieur sait très bien que tous ces protocoles d'accord sont complètement illégaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, ce protocole ne vaut absolument rien. Un protocole d'accord, eux-mêmes, l'intersyndicale, en plein CNT, ils ont refusé que nous mettions dans la loi que le protocole d'accord soit acceptable et protégé. Donc tout ce que le monsieur a raconté sur la soi-disant application de 21 500 est fausse. Malheureusement, nous sommes face à cet intersyndical qui ne respecte rien. Monsieur parle des entreprises qui engageraient 10 étrangers pour un Congolais. C'est faux. La loi est claire en cette matière. Il y a des quotas qui sont obligatoires pour toutes les entreprises. Et toutes les entreprises membres de l'AFEC respectent ces quotas. Aucune entreprise qui est membre de l'AFEC n'a plus d'étrangers que des Congolais. Donc malheureusement, nous sommes face à ce genre de personnages qui se permettent de venir devant une grande radio telle que la radio Okapi et raconter des mensonges à des millions de Congolais. C'est pas correct. C'est vraiment malhonnête, cher monsieur.
Oui, John Mwenda.
Monsieur Guy.
Oui, John Mwenda.
Oui.
On se rappelle que le gouvernement, vous avez, n'est-ce pas, demandé à vous, hein, les deux parties, de vous concerter. Donc, vous faites de vous concerter avec l'intersyndical, mais on se rend compte, hein, en vous suivant, que vous n'avez toujours pas trouvé des compromis. Alors, quels sont les points sur lesquels vous n'arrivez toujours pas à vous mettre d'accord avec l'intersyndical?
Écoutez, le premier point, c'est la tension salariale, qui fait qu'aujourd'hui, si nous appliquons 21 500, nous allons nous retrouver avec 17 SMIC différents au Congo, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Pour chaque catégorie d'emploi, il y a un SMIC différent. Et nous arrivons jusqu'à un SMIC de 2 500 $ américains, s'il vous plaît. Même un pays européen tel que la Belgique n'a pas un SMIC à 2 500 $. Alors qu'un Congolais, soi-disant défenseur des travailleurs, vienne dans une radio et demander aux entreprises d'appliquer un SMIC de 2 500 Congolais, c'est de l'irresponsabilité pure et simple. La seule conséquence, ça va être des créations et ça va être des destructions des milliers d'emplois. Nous avions dit qu'il y avait déjà des lettres devant la table du ministre du Travail, des lettres pour des licenciements massifs de plusieurs milliers de Congolais qui risquent de perdre leur emploi. Nous sommes venus, nous, ici, l'AFEC, à Bandundouville, pour justement assister aux activités du gouvernement avec le conseil des gouverneurs, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi, l'AFEC peut donner sa pierre pour faire redémarrer l'économie dans cette belle province de Bandundouville. Mais avec ce type de attitudes de nos amis de l'intersyndicale, malheureusement, nous n'allons rien atteindre. Donc la première problématique, c'est la tension salariale. Nous avons demandé d'arrêter avec cette tension salariale qui crée 17 000 en RDC. Aujourd'hui, nous avons, si nous appliquons 21 000, nous arrivons à un SMIC de 2 500 $, s'il vous plaît. Ça sera la mort pour plusieurs entreprises, la mort pour plusieurs milliers de travailleurs. Et nous n'allons pas atteindre ces millions d'emplois que le gouvernement, que le président de la République appelle de tous ses voeux. Le président a insisté ici à Bandundu sur le fait que nous devons relancer l'économie agricole. Mais comment relancer l'économie agricole avec un SMIG uniforme pour tous les secteurs? Pour ce secteur, nous avons demandé des choses très simples. Nous devons d'abord maintenir le moratoire tant qu'il n'y a pas les allègements. Ça fait 25 ans que ce secteur attend des allègements du gouvernement. Si nous voulons maintenir les quelques entreprises qui continuent à œuvrer dans ce secteur, nous devons maintenir ce moratoire, s'il vous plaît. Et bien sûr, nous devons demander l'instauration du SMAP, du salaire minimum pour le secteur agricole. Même cela, nos amis de l'intersyndicale ont refusé. C'est vraiment, nous trouvons ça triste de voir des défenseurs des travailleurs avoir ce type d'attitude et surtout raconter n'importe quoi devant une grande radio telle que la radio Okapi.
Voilà, à part la tension salariale, quels sont les autres points sur lesquels il y a des divergences entre vous et l'intersyndicale?
Nous avons aussi demandé d'aller à 21 500 par palier. Nous avons demandé d'aller sur un premier palier de 16 500 francs qui représente aujourd'hui 7,5 $. c'était l'équivalent de 21 500 qu'ils avaient demandé en avril 2025. Nous avons accepté d'aller sur ce palier de 16 500 dès maintenant, de basculer sur le palier de 19 500 à partir du mois de juillet 2026 pour chuter le 1er janvier 2027 à 21 500 tel que voulu. Tout ce que nous demandons, c'est un report. Je fais aussi un appel à tous les travailleurs qui nous écoutent. S'il vous plaît, chers travailleurs, ne suivez pas ces vendeurs de rêves. Ces vendeurs de rêves ne travaillent pas pour votre intérêt. Ils veulent juste garder leurs privilèges qu'ils ont en étant à l'intersyndicale, en siégeant dans des grands conseils d'administration, où ils gagnent des milliers de dollars. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne pensent pas du tout à vous sur ce combat. C'est un combat pour leurs intérêts. En CNT, tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est rallonger leur mandat. Au lieu qu'il y ait un mandat de syndicat de 3 ans, ils veulent que ça passe à 5 ans. Ils veulent aussi ne pas organiser les élections syndicales cette année, qu'on l'organise dans 2 ans. Tout ce qu'ils veulent, c'est certains intérêts pour l'intersyndicat, pas pour vous les travailleurs. Donc s'il vous plaît, chers travailleurs, vous qui nous écoutez massivement, soyez, pensez à vous. Quand les entreprises vont commencer à licencier, si on doit appliquer, personne ne sera là de l'intersyndicale à vos côtés. Personne de l'intersyndicale ne vous versera un salaire. Donc, même dans une famille, quand vous avez un ami qui vient chez vous et qui vous demande de quitter votre femme, c'est que ce n'est pas un bon ami. Et c'est ça l'intersyndicale aujourd'hui. Ils sont là à dire, ceux qui ne peuvent pas appliquer, ils n'ont qu'à fermer. Il y a combien de Congolais qui cherchent du travail aujourd'hui? C'est tellement irresponsable dans un pays avec un tel niveau de chômage que quelqu'un de l'intersyndicale vienne et dise, voilà, ceux qui ne peuvent pas appliquer, 2 500 dollars, ils n'ont qu'à fermer. C'est irresponsable, s'il vous plaît.
Alors, pourquoi vous brandissez cette menace de licenciement quand vous savez que les travailleurs sont dans leurs droits? Ils ont les droits, n'est-ce pas, de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail, n'est-ce pas?
Monsieur Guy, on est tout à fait d'accord là-dessus. Les travailleurs ont le droit de revendiquer. Et nous avons compris cela. Comme je l'ai dit, nous avons déjà appliqué le premier palier. Le SMIG est passé déjà aux 14 500 et le cadre de collaboration aujourd'hui est à plus de 1 700 dollars américains. Ce qui est déjà énorme. Nous sommes déjà là. Donc, les entreprises, nous avons déjà fait un grand pas. Tout ce que nous demandons, regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y avait déjà la guerre en Ukraine. Maintenant, nous nous retrouvons avec une deuxième guerre, avec la fermeture du détroit d'Hormuz. Aujourd'hui, le carburant est en train de flamber sur le plan mondial. Donc, une deuxième vague va nous arriver. Toutes les matières premières sont en train d'augmenter drastiquement de manière incontrôlée sur tous les produits que nous importons. C'est-à-dire que dans quelques mois, toutes les entreprises vont se retrouver dans une situation où les prix vont fortement augmenter. Avec ces augmentations de prix, augmenter encore le SMIG directement aujourd'hui à 21 500 et avoir un SMIG à 2 500 dollars, ça va être la mort pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Mais quand je dis la mort des entreprises, c'est aussi la mort des travailleurs-là. Parce qu'aujourd'hui, vous perdez un emploi. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous allez continuer à pouvoir survivre? Donc nous comprenons les travailleurs. C'est pour ça que je lance cet appel vis-à-vis des travailleurs. N'écoutez pas ces vendeurs de rêves. Ils ne seront pas là demain pour vous. Aujourd'hui, devant la table, appelez le ministre du Travail. Il a reçu combien de demandes de licenciement massifs? Il y a des milliers d'emplois qui sont déjà sur la table du ministre, sans compter ceux qui suivront par la suite. Parce qu'une fois que nous commençons à perdre des emplois dans certaines entreprises, les autres vont se retrouver en difficulté. Il faut aussi rappeler que le secteur, malheureusement nous sommes dans une situation où le SMIG ne s'applique qu'au secteur privé. C'est-à-dire que la fonction publique n'est pas concernée par ce SMIG. Donc le seul secteur privé qui est déjà très fragile, nous savons qu'il y a une grosse partie de notre économie qui est dans le secteur informel, qui n'applique quand même pas le SMIG aujourd'hui. Donc aujourd'hui, demander au petit secteur formel qui existe et qui se bat pour respecter toutes les lois, lui demander d'appliquer le SMIC, c'est pousser simplement beaucoup d'entreprises à tomber même dans le secteur informel. Des pistes de solutions existent. Nous avons travaillé sur ces pistes avec l'intersyndicale. Nous avons demandé...
On va y revenir. Monsieur Mouinda, on va revenir sur les pistes de solutions. On donne la parole au professeur Alidor Tshibanda. Professeur Alidor Tshibanda, lorsque vous écoutez les deux parties, vous sentez qu'ils ont des positions diamétralement opposées. Alors, comment vous réagissez à cela?
Bon, je constate effectivement que chacun campe. Ce qui me donne l'impression, en décrétant.
Professeur, essayez de bouger un peu. Hein,
apparemment, c'est comme s'il n'a pas écouté les deux parties pour avoir des avis techniques et associés aux avis de terrain en vue d'une solution qui mettrait chacun dans une position plus ou moins acceptable. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue qui m'inquiète, c'est tenir compte du pouvoir de la réalité du marché du terrain. Est-ce que l'argent qui est payé à un citoyen congolais qui travaille chez un Libanais, qui travaille chez un Indien, qui travaillerait probablement au citoyen congolais, est-ce que cet argent lui permet de relier les deux bouts du mois tant qu'il soit chez un cabiste pour rallonger le jour? Et puis, est-ce que au Congo, on a véritablement tous la même acception du salaire? Est-ce qu'on a la même acception, même si beaucoup soutiennent que le salaire ne peut pas rendre quelqu'un riche? Mais grâce au salaire, l'argent circule et l'État s'est gagné des impôts et des taxes parce que l'argent a circulé, les gens ont été payés et que les gens ont acheté dans le marché et que grâce à ces achats, l'État tire bénéfice de cette circulation-là. Est-ce qu'on comprend la valeur du salaire? On comprend que celui qui travaille doit vivre son salaire. Comme le consacre notre constitution qui dit qu'il faut permettre d'avoir un salaire qui le met dans des conditions humainement acceptables. Est-ce que nos salaires nous mettent dans des conditions humainement acceptables? Pourquoi les salaires? Nous devons aller dans des églises, comme le commun des mortels commence à le dire, pour avoir un salaire, un droit. Est-ce qu'il faut prier, implorer la grâce de Dieu pour un droit? Je crois que l'AFEC fait son travail et qu'ils n'interdisent pas l'intersyndical de continuer à se battre, parce que les syndicats ont été créés dans cette ambiance de combat pour les intérêts des travailleurs. Alors si on demande à ce qu'on écoute seulement la fête et qu'on n'écoute pas les syndicalistes, je crois que nous ne sommes pas dans une société juste. Merci. Je sais que l'UDPS, pouvoir, c'est un parti qui se veut, ou qui se dit, social-démocrate.
Mais c'est moi, on vous entend. Attendez, on va vous donner la parole.
D'accord.
Allez-y, professeur. Chutez, professeur.
Et mettre l'homme au centre de cette préoccupation, effectivement, les attentes, non seulement de la FEC parce qu'ils ont des moyens, mais aussi de ces travailleurs qui se réveillent chaque matin pour faire bouger l'économie du pays. Sinon, la régulation qui revient à l'État risque de perdre son sens. On va croire que l'État est pris en otage par ceux qui détiennent les capitaux.
Merci.
Et la définition marxiste de l'État ne sera pas très loin de ce que nous sommes en train de vivre, où l'État devient l'instrument au service des puissants.
Merci, professeur Alidor Tshibanda. Nous allons vous redonner la parole. Nous allons maintenant écouter, n'est-ce pas, les points de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler par rapport à ces sujets. Monsieur Makayanga, est-ce que vous êtes là?
Je suis en ligne.
Voilà, voilà. Vous allez écouter avec nous l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, il s'appelle Junior Bompongo. Vous allez l'écouter, hein, et après vous allez réagir.
Junior Bompongo, depuis la ville province de Kinshasa. La question que je me pose est celle de savoir, fallait-il attendre que la grogne sociale sous forme de grève éclate pour intervenir? Donc, une approche préventive, combinant inspection régulière, sensibilisation des employeurs et accompagnement économique, aurait permis d'assurer l'application du CIMIG avant que la tension ne dégénère. Toutefois, attendre la crise transfère le poids de la réaction sur l'État et accentue les perturbations économiques et sociales. Je dirais même qu'une politique proactive des dialogues sociaux impliquant syndicats et associations patronales aurait pu anticiper les difficultés financières des commerçants en garantissant le respect des droits des travailleurs. formalisément, la décision ministérielle, pour moi, apparaît davantage comme une réponse d'urgence que comme une stratégie planifiée de régulation du travail.
Monsieur Jamakayanga, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur, mais aussi hein, oui, au propos de M. John Mwenda de la PEC.
Nous disons d'abord que nous ne sommes pas des charlatans, comme l'autre dit, nous sommes des syndicalistes professionnels et nous leur disons tout simplement, la charge d'une entreprise ne constitue pas le paiement du personnel. Dans le personnel, il y a le personnel étranger et les Congolais. Si nos étrangers respectaient la loi, ils n'allaient même pas voir des difficultés. Et puisqu'ils engagent beaucoup d'étrangers au détriment des Congolais, les premiers justices. La deuxième, la loi, on doit donner aux Congolais un minimum acceptable pour qu'ils viennent travailler et travailler dans des conditions décentes. Le SMIC a été adopté par les partis. Et dans le Conseil national du travail, on a trouvé tous les experts, les ministres, et ils sont là. La partie gouvernementale a apporté ses experts. C'est au vu, après l'analyse de ça, que la FEC elle-même a signé, a accepté de pouvoir payer $7. Je crois que la FEC doit cesser, je le dis à haute voix, doit cesser d'instrumentaliser ses membres. Puisque certains de ses membres sont entrés aujourd'hui de démontrer autre chose. Il a dit qu'il n'y avait pas de gens qui ont payé, car ils n'ont pas encore payé $10. Nous avons écrit au ministre, nous lui avons demandé de venir contrôler. Il y a des dans les entreprises, les Chinois, je vous dis, les Ouest Africains et même les Libanais, qui n'ont même pas atteint $10. Et fait les 14 500 $, ils n'ont pas encore payé. Lui, il dit que tous les gens de la FEC ont payé 14 500. C'est de l'imaginaire. Il faut être sûr dans le secteur. Je lui dis clairement que nous ne faisons pas du populisme. Nous disons clairement que payer aux travailleurs, c'est 7 500 qui constituent les SMIC. C'est donner le minimum vital à l'emploi, à ce travailleur pour qu'il puisse rendre service à cette entreprise. Donc, il n'y a pas de charlatan, il n'y a pas de populisme. Mais aussi, nous disons clairement que faire un protocole d'accord entre parties, ça ne constitue pas une violation de la loi. Si l'employeur accepte de payer 21 500 francs et les Congolais acceptent et que les syndicats viennent, ils sont là en témoin pour dire que vous payez 21 500 à telle date. Cela constitue une infraction ou constitue quoi? Je crois qu'il faut avoir, il faut cesser des illusions. Ce que nous avons fait, c'est de ramener le dialogue social dans l'entreprise, amener les travailleurs proches de l'employeur pour qu'ils puissent trouver un vademécum, pour que le travail puisse survivre, pour que l'économie puisse continuer à fonctionner. Et nous leur disons, il y a la mauvaise foi. Je lui le dis à haute voix, dans cette même entreprise qui dit de la FEC, il y a la sous-traitance. Et dans la sous-traitance, il y a des salaires, il y a ceux qui sont payés. Peut-être les 14 500, mais les sous-traitants sont payés à combien, monsieur? À combien? À moins de 10 000 $, ils sont payés d'une manière rudimentaire.
Merci.
C'est de l'esclavagisme professionnel qui est en train de s'introduire. Et l'État doit réguler, l'État ne doit pas permettre à un groupe qui vient investir exploiter les Congolais. C'est cette exploitation, c'est cet esclavagisme qui est en train de s'installer, que nous sommes en train de dire à haute voix non et non dans les pays.
Merci.
De Lumumba, de Tshisekedi, de Kasavubu et j'en passe.
Merci Monsieur Jean Makayanga, on va vous donner la parole. Monsieur John Mwenda, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la Tshopo, c'est Alpha Dodé.
Maître Dodé Toela Tukinda depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. Parce qu'il s'agit d'un combat bénéfique pour les travailleurs congolais, nous nous obligeons à féliciter le ministre du Travail et Prévoyance sociale tout en souhaitant du succès à toutes les équipes qui seront déployées sur terrain pour cette fin. Toutefois, un tel combat s'évitera aux multiples contraintes dans ce secteur privé, en tandis que l'État congolais, à travers les mêmes ministères sectoriels, n'arrive pas à appliquer les mêmes signes ni à payer un grand nombre de mécanisés non budgétisés il y a des années. En outre, le manque d'emploi au pays ne peut pas faciliter les travailleurs des secteurs privés à y quitter pour la simple raison qu'ailleurs, il n'y a pas aussi mieux que ce qu'ils vivent dans les secteurs privés. Voilà pourquoi je propose au ministre de commencer d'abord par imposer le respect des SMIG au sein de l'administration publique avant de faire pression dans les secteurs privés sans être modèle soi-même en tant que l'État.
John Mwenda.
Ce que l'auditeur vient de dire est quand même fondamental. Le SMIG au Congo tel qu'il est aujourd'hui n'est pas applicable à la fonction publique. Or, la fonction publique est le premier employeur du pays. C'est vrai que si nous devons suivre la logique, il faudrait d'abord que la fonction publique l'applique et bien sûr les entreprises privées pourront le faire. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, la fonction publique est à des montants beaucoup plus bas que le secteur privé et nous demandons au secteur privé d'aller jusqu'à un SMIC de $2,500 pour certaines catégories. Or, en faisant cela, nos charges augmentent mais les ventes n'augmentent pas. Pour que les ventes augmentent, il aurait fallu que le secteur public aussi voit sa rémunération augmenter. Or, si le secteur public ne fait pas cette augmentation, il y a une bonne raison. La situation du pays est difficile aujourd'hui. L'État n'a pas les moyens de le faire, d'augmenter au niveau tel qu'ils l'ont imposé au secteur privé. Donc, si l'État lui-même, qui est la base de notre économie, a ces difficultés, pensez-vous réellement que les entreprises privées n'ont pas les mêmes difficultés? Comme je vous l'ai dit, nous sommes aussi dans une concurrence de concurrence, une situation de concurrence avec nos pays voisins. Nous voyons de plus en plus des produits qui viennent de l'Angola, même à Kisangani, les produits viennent de Tanzanie, ça passe par l'Ouganda, ça arrive jusqu'à Kisangani. Vous êtes à Lubumbashi, les produits rentrent par Kasumbalesa, par Mokambo et j'en passe. Donc, avec cette concurrence, nous allons maintenant appliquer un SMIC de 21 500. Si vous rajoutez les charges sociales et les charges patronales, vous êtes à plus de $400 en incluant le logement et le transport. Donc le SMIC en RDC, si nous appliquons aujourd'hui 21 000, avec toutes les charges, nous sommes à plus de $400. Le SMIC en Zambie aujourd'hui est à $101, s'il vous plaît. Le SMIC en Angola est à $109, s'il vous plaît. Le SMIC à Brazzaville est à $158, s'il vous plaît. Comment est-ce que nous, en RDC, nous allons appliquer un tel SMIC? Nous allons perdre toute la compétitivité, sachant que nous allons rentrer dans la ZECAF, le marché va s'ouvrir, les produits des pays voisins vont rentrer chez nous sans payer les douanes, et vice-versa. Nous ne sommes pas prêts. Aujourd'hui, nos enfants, nos frères quittent le Congo pour aller chercher du travail en Angola pour où ils vont gagner $100. Quelle est la logique? Nos enfants quittent le Congo pour aller chercher du travail dans des pays voisins où ils sont payés à un SMIC de $109. Et nous, chez nous, nous disons, voilà, il n'y a pas d'emploi, mais nous vous proposons un SMIC de $400. Soyons réalistes, nos amis syndicalistes, soyons réalistes.
Merci.
Et arrêtez ce double langage.
Merci.
Quand on est à deux, on se réunit avec eux, ils acceptent, ils disent qu'ils nous comprennent. Et puis quand on va dans les CNT, ils disent non, on refuse complètement.
Merci, on a compris. On donne aussi la parole au professeur Aldor Kibanda. Professeur, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au Sud-Kivu. C'est Eri, monsieur Eri.
Je suis Eri Sirikupata Serge. J'interviens depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Il est évident que la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti est symbolique d'un problème plus profond de gouvernance en République démocratique du Congo. Les commerçants en grande partie ne respectent pas cette législation et cela est en grande partie dû à l'inefficacité de l'inspection générale du travail qui devrait être le garant de l'application des droits des travailleurs. Il est préoccupant de constater que les inspecteurs eux-mêmes sont souvent sous-payés, ce qui soulève la question de leur capacité à faire respecter la loi. Comment peut-on attendre dès qu'ils défendent les droits des travailleurs lorsqu'ils sont eux-mêmes en situation précaire? Cette réalité met en lumière un manque de sérieux de la part du gouvernement sur cette question cruciale. La décision récente du ministre de l'Emploi d'ordonner une mission de contrôle est un pas dans la bonne direction, mais elle doit être suivie d'actions concrètes et durables. Il est impératif que les gouvernements prennent des mesures significatives pour renforcer l'inspection générale du travail et garantir que les droits des travailleurs soient respectés.
Professeur Aldo Kibanda.
Oui, oui. L'intervenant a la prise en charge du personnel chargé d'inspection étant déficitaire, il est difficile qu'on puisse trouver gain de cause. Le maître mot pour la fragilité de notre État et qui est à la base de toutes les contradictions auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est la prédation qui a commencé avec Léopold II et aujourd'hui, avec l'éclatement du monopole de l'État dans presque tous les aspects, il se fait que chacun là où il est, il passe pour l'État et il se sert au lieu de servir l'État. Et dès lors qu'il va se servir, c'est la faiblesse de l'État qui se déclare et celui qui l'a servi
devient le maître à penser et il va trouver son compte dans cette contradiction-là et continuer à marcher sur les lois de la République. Le problème est crucial, il est temps aujourd'hui, face à toutes ces contradictions, il n'y a pas longtemps, il y a eu un grand forum sur la tension salariale. Il est temps qu'on réfléchisse sur tous ces aspects-là pour redonner à l'État ses lettres de noblesse. Sinon, le contrôle qui va avoir lieu sera une occasion pour les uns et les autres de se faire des moyens. Il faut voir quand on annonce une mission, pareil, combien se mettent debout pour aller sur terrain. Et quand ils arrivent sur terrain, ce n'est pas pour appliquer, rendre l'État agir au nom de l'État et donner, rendre l'État plus efficace, c'est pour remplir leur, pour la plupart, hein, je ne dirais pas tous, remplir leur poche et se faire des moyens de manière illicite.
Professeur, nous tendons vers la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous vous proposez pour mettre fin à cette crise hein, entre d'un côté l'employeur et de l'autre côté l'intersyndical?
L'État a le rôle du régulateur qui ne recule pas, qu'il fasse appliquer ce qu'il a pris comme mesure pour l'intérêt et de travailleurs et aussi de l'employeur. Parce que quand la motivation au travail, c'est aussi les salaires. Ça fait partie des facteurs de motivation. Si on est bien pris en charge, on va donner le meilleur de soi-même. Et quand on est en difficulté, on a des problèmes à la maison, quand on arrive au travail, on est démotivé et que le rendement n'est pas au rendez-vous. Donc, je crois qu'il est temps que l'affect revienne à la raison et qu'on voit comment, s'ils ont d'autres revendications, ils appliquent d'abord, qu'elle applique d'abord la décision prise par l'État et qu'elle saisisse l'État pour encore une nouvelle discussion. Ce n'est pas à exclure, l'État doit écouter tous ses enfants pour une bonne marche de la nation.
Merci, Monsieur Jean Makayanga. Vous allez aussi conclure. Hein. Vous ne pensez pas qu'il faille que les deux parties s'effacent mutuellement des concessions?
Monsieur le directeur, d'abord, la première chose que j'ai dit, il faut que l'employeur, qui est la FEC, qui est le syndicat de l'employeur, vit au regard des réalités du pays. On ne peut pas accepter dans une entreprise où il y a 50 travailleurs étrangers et 10 travailleurs engagés congolais. Vous dites que ces 10 travailleurs congolais ne peuvent pas toucher 21 500 francs. Les autres sont jetés dans la sous-traitance avec moins de 2 dollars par mois et vous dites que ça va. C'est pourquoi nous disons l'exemple qu'a fait le président de la République à Rwanda, l'inspection générale des finances, ce qu'il est devenu, qui constitue aussi une poubelle à une période donnée, l'inspection du travail doit devenir un instrument propice pour permettre de faire asseoir le gouvernement sa politique sociale.
Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on sorte de cette crise, M. Makayanda? Vous proposez quoi pour qu'on sorte
de cette crise, voilà. Monsieur, l'employeur doit respecter la loi. La loi, si le Premier ministre a déjà promulgué le SMIC, on l'applique. Et le dialogue social oblige que les deux parties, quand ils se retrouvent, ils vont négocier sur certaines modalités pratiques. Mais d'abord, qu'on applique d'abord les dispositions pratiques. Nous sommes dans un pays, ce n'est pas en Belgique que quand le gouvernement prend des décisions, on l'applique d'abord. Ce n'est que dans notre pays qu'on doit, un Premier ministre, après avoir signé un décret, on dit que c'est inapplicable alors qu'on a été en amont discuter dans un conseil national. J'ai dit qu'on discute le dialogue social. Nous sommes d'accord. On dialogue, mais qu'on dialogue dans l'esprit de la loi en tenant compte des intérêts des deux parties. Et les intérêts du travail, c'est d'éviter dans ce pays qui s'installe un esclavagisme professionnel visible, un job noir. Merci. Qui est en train de décimer la population des travailleurs congolais.
Merci, John Mwenda. Vous avez annoncé des pistes de solutions. Quelles sont ces pistes de solutions que vous avez à proposer, n'est-ce pas, pour qu'on sorte de cette crise? Ça sera sur votre conclusion.
Absolument. J'aimerais d'abord dire que les entreprises qui engageraient plus d'étrangers que des Congolais sont des entreprises qui sont dans l'illégalité et la FEC ne va jamais cautionner ce type de pratique. Donc si de telles entreprises existent,
Nous les condamnons et nous demandons aux autorités de faire le travail. Ça, c'est de un. Les pistes de solutions existent si nous voulons améliorer le pouvoir d'achat. Nous avons demandé la révision des tranches des IPR. Les tranches, aujourd'hui, la personne qui est déjà au SMIC avec le palier de 14 500, une bonne partie de sa rémunération est taxée à 15 %, ce qui n'est pas juste. Nous avons demandé que les tranches soient revues pour que la personne qui est au niveau du SMIC paye 3 % d'impôt sur le revenu. Première piste de solution. Deuxième piste de solution, nous avons demandé un plafonnement justement de l'IPR. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu va jusqu'à 30 %. Nous avons demandé un plafonnement à 20 %. Pourquoi 20 %? Ça va permettre de donner du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un travailleur gagne 1 000 $, il paye 300 $, là, il payera 200 $ d'impôt. Ça va lui laisser plus de pouvoir d'achat. Nous avons aussi demandé la révision de certaines taxes pour les entreprises. Une entreprise comme celle que nous gérons, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plus de 80 taxes que nous payons chaque année. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque 3 jours, nous payons une taxe, ce qui n'est pas du tout gérable, ce qui rend la situation difficile pour les entreprises. Allégeons les charges des entreprises. D'autres pistes aussi existent. Réduire les coûts du péage pour permettre que les produits qui viennent de Bandundu, qui arrivent à Kinshasa, soient moins chers. Les produits qui viennent du Congo central, qui arrivent à Kinshasa, soit moins cher, réduire le prix du les barrières sur ces routes-là. Aujourd'hui, vous avez sur une route telle que Kikwit-Kinshasa, plus de 15 barrières qui existent. Réduire tout ça va permettre de baisser le coût de la vie du Congo. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas sur une île, s'il vous plaît. Quand nous fixons 400 $ comme SMIC minimum en RDC, pendant que tous nos voisins sont autour de 100 voire 150 $, nous condamnons notre industrialisation. Notre pays ne va pas s'industrialiser. Je l'ai dit la dernière fois, en 1960, il y avait plus de 10 000 industries pour 20 millions d'habitants au Congo. Nous sommes en 2026, nous sommes à plus de 110 millions d'habitants, il y a moins de 500 industries. Merci. Nous sommes passés de 10 000 industries à moins de 500. Aidons les travailleurs, et aidons s'il vous plaît les travailleurs aussi, un dernier mot pour vous, ne faites pas confiance aux vendeurs de rêves.
Merci, on a compris.
Les personnes qui... Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Monsieur Jean Makayanga, Monsieur John Mwenda et le professeur Alidor Chibanda. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi et David Mugisa qui l'ont réalisé, et à André Mongou qui était à la technique, et Jean-Claude Nsiala qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guimaté. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Okapi.